BFM Business présente Recherche Talent avec Laure Clausier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent des entretiens d'embauche. Aujourd'hui, le défi est lancé à Emmanuel Rollin, le directeur général d'Iberdrola en France. Bonjour, merci d'être avec nous à faire connaissance avec nos trois étudiants.
Bonjour à tous, je m'appelle David Medioni, je suis diplômé du master en Sustainable Finance de l'ESSEC. Avant ça, j'avais une autre formation en finance au Canada. Je suis ravi d'échanger avec M. Rollin sur Iberdrola et plus particulièrement sur le nouveau parc éolien de Saint-Brieuc.
Je suis Soraya Chawashi, j'ai 22 ans et je suis étudiante en double diplôme à l'ECE Paris et à Centrale Supélec en cybersécurité et innovation. Parallèlement, je suis également en stage à Société Générale dans la sécurité bancaire et notamment dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la lutte contre la fraude externe. Aussi, je suis engagée bénévolement en tant que présidente de la junior entreprise de mon établissement, GIS. Je suis impatiente d'échanger aujourd'hui au sujet de l'entreprise Iberdrola, leader mondial des énergies éoliennes, et dans un sens plus large, au sujet du changement climatique, qui est l'un des défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée.
Bonjour, je m'appelle Vivian Belli, j'ai 19 ans et je suis étudiant en première année à l'École Centrale de Lyon et président de Centrale Lyon Conseil. Je crois que l'énergie est un secteur d'avenir puisqu'il s'inscrit dans les grandes transitions de demain.
David, Soraya et Vivian, bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vois que vous connaissez déjà Iberdrola. Vous avez regardé juste pour l'émission ou vous connaissiez avant ?
Moi, personnellement, je connaissais.
Déjà, c'est pas mal. Mais quand même, Emmanuel Rollin, un des principaux acteurs du renouvelable en Europe et en France. Iberdrola, donnez-nous quelques chiffres, quelques échelles.
Iberdrola, c'est une entreprise espagnole, producteur d'électricité. Nous sommes présents dans plus de 30 pays. Nous avons 42 000 employés et nous sommes, comme vous le disiez, un des leaders mondiaux de l'énergie renouvelable. Et surtout, nous sommes un pionnier, puisque ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, dans notre production d'électricité, nous avons plus de charbon, plus de fuel. Nous avons une empreinte carbone qui est 5 fois inférieure à nos concurrents européens. Que faisons-nous, en particulier en France? Nous développons des installations renouvelables en éolien terrestre, en photovoltaïque ou en éolien en mer. Nous les exploitons. Nous venons juste de mettre en service le parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc et nous vendons l'électricité verte que nous produisons. Voilà notre métier.
Alors c'est parti. Face à vous, trois étudiants. On commence avec David. Votre question.
Alors, bonjour Monsieur Rollin. Bonjour. Alors moi justement, je vais vous parler du parc de Saint-Brieuc, du parc éolien. J'avais une question, je vais omettre en fait les questions de biodiversité marine, parce que je pense qu'on vous a beaucoup tanné là-dessus, mais je vais plus vous parler en fait de la circularité de ce projet. Donc d'après ce que j'ai compris, le projet, dans 25 ans, il va falloir renouveler ces turbines. Donc ma question c'est, comment on fait pour renouveler ces turbines-là? On sait que les matériaux, souvent acier, béton, souvent des composites, donc c'est pas facile en termes de circularité. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a un plan qui est mis en place ou qui va être mis en place? Et surtout, est-ce que ce plan, combien il va coûter? Est-ce qu'il a été pris en compte dans les 2,4 milliards investis?
Ça commence fort, on se croirait dans une audition au Sénat. Alors c'est parti, on y va. Quelles sont vos réponses, Emmanuel?
Alors, votre question est très intéressante. Déjà, je tiens à vous rassurer, il y a une obligation réglementaire à ce que le parc soit démantelé en fin d'exploitation. Il y a des garanties financières dès le premier jour.
D'accord.
Au bénéfice de l'État. Donc imaginons que Iberdrola fasse défaut et ne démantèle pas le parc. L'État fait appel à cette garantie financière et démantèlera lui-même le parc. Donc de ce côté-là, c'est réglé. Ensuite, nous avons utilisé des fondations qui sont en acier. Les éoliennes sont principalement faites d'acier. Il y a aussi du cuivre et d'autres métaux. Mais ce sont des matériaux qui sont relativement facilement recyclables. Reste le problème des pales, qui sont effectivement en composite. C'est seulement 10% de la composition d'une éolienne. Et là, la technologie évolue énormément. Donc dans 25 ou 30 ans, j'ai aucun doute que les pales seront recyclables.
Merci beaucoup.
Soraya.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Iberdrola, c'est 41 milliards d'euros d'investissement à l'horizon 2026. Face à ces investissements conséquents, à ces échéances aussi contraignantes et à ce besoin urgent d'accélération, comment parvenez-vous à contrôler les risques de ces projets ambitieux et à garantir ou à assurer finalement la rentabilité post-investissement ?
C'est basé sur une trajectoire qui est longue. Bon, déjà, nous avons 170 ans d'histoire et, comme je vous disais, plus de 20 ans dans les énergies renouvelables. Donc, le financement, ça fait partie du nerf de la guerre. Nous sommes le plus gros émetteur de green bond, donc d'obligations vertes privées du secteur. Et après, au niveau des risques, il y a une analyse qui est extrêmement profonde avec un jalon qui est clé dans les projets que l'on appelle en anglais le FID. Donc la décision finale d'investissement en bon français. Et c'est là que sont pesés absolument tous les risques. On garde quelques provisions quand même au cas où il y ait des risques que l'on n'ait pas prévus pour effectivement garantir la rentabilité du projet et donc in fine sa faisabilité.
Bah, la raison, Soraya, la question du financement, elle est clé. Évidemment, la question du prix de l'électricité, sur quelle base on construit les projets, c'est essentiel.
C'est essentiel et c'est pour ça que c'est très important d'être une entreprise saine financièrement, telle qu'elle est Iberdrola. Je rappelle que nous avons la deuxième capitalisation boursière du secteur, ce qui veut dire que même avec des projets qui ont des taux de rentabilité évidemment bien inférieurs aux fossiles, on peut être une entreprise extrêmement saine financièrement.
Vivian, votre question.
Oui, donc moi j'avais une question. Tout le monde sait que les énergies renouvelables sont les énergies de demain. Mais par contre, elles posent toujours un problème d'intermittence, ces énergies. Et c'est aussi un problème financier, je crois, pour les producteurs d'énergie. Et donc vous, comment est-ce que vous voyez ce problème d'intermittence? Par exemple, quand il n'y a pas de vent, bah, les éoliennes ne tournent pas. Et comment est-ce que vous trouvez les solutions techniques et financières pour ce problème?
Effectivement, vous avez raison. Par définition, le solaire, la nuit, il n'y a pas de production. Ou l'éolien, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de production. Donc déjà, ce qui est très important, c'est d'avoir un mix énergétique. C'est le choix qu'a fait la France, d'ailleurs, puisque nous avons du nucléaire, nous avons du renouvelable, et d'avoir aussi des interconnexions entre les pays. Et la France est un pays extrêmement interconnecté avec l'ensemble de ses voisins. Il faut aussi avoir une répartition territoriale des moyens. Et en France, par exemple, il y a toujours du vent quelque part. Le régime de vent dans le sud n'est pas le même que celui dans l'est ou celui dans l'ouest. Donc tout ça déjà permet d'atténuer. Ensuite, en France, nous avons encore un taux d'énergie renouvelable qui est relativement faible par rapport à nos voisins. Nos voisins espagnols ou nos voisins portugais, qui sont à des taux au-dessus de 50%, même 60% pour le Portugal, ont démontré que l'on peut quand même intégrer dans le réseau des énergies dites intermittentes. Et puis après, il y a toutes les solutions techniques, telles que le stockage, par exemple, qui sont en train de se développer. En France, ce n'est pas encore trop le cas, mais dans certains pays, le stockage se développe à grande vitesse et ça permettra donc de garantir cet équilibre.
David.
Oui, alors...
David, vous plaisantez pas, vous.
Pardon, non, pas du tout, c'est pas ça. En fait, donc là, d'après ce que j'ai lu, et peut-être vous allez me contredire, mais les habitants de Saint-Brieuc, qu'on appelle les briochins, si jamais vous ne saviez pas. Je ne savais pas. visiblement, leur facture d'électricité, elle va rester la même. Donc c'est bien, c'est décarboné, tant mieux pour la planète, mais pour les consommateurs, la facture reste la même. Donc en fait, ma question, et c'est un peu, ça rejoint ce que disait Vivian, c'est au-delà de la décarbonation de cette énergie, comment vous arrivez à convaincre le consommateur de dire « Oui, en effet, en France, vous avez l'énergie nucléaire, donc ça vous coûte moins cher, mais venez quand même vers du renouvelable chez Iberdrola. »
Emmanuel.
Oui. Alors, il faut revenir un peu au montage juridique. Aujourd'hui, l'électricité que nous produisons avec le parc de Saint-Brieuc, nous la vendons à EDF. C'est une obligation. Nous n'avons pas la possibilité de la vendre aux riverains.
D'accord.
Dans d'autres projets, il y a cette possibilité, mais là, c'était une obligation. En revanche, c'est vrai que il y a d'autres bénéfices pour les communautés locales, les populations locales, en particulier au niveau de l'emploi. Il ne faut pas oublier qu'un projet comme le projet de Saint-Brieuc, en France, il a mobilisé plus de 1800 emplois. Il y a eu des créations d'usines grâce à ce projet. En particulier, c'est la commande des éoliennes de ce projet qui a déclenché la construction de l'usine de Siemens Gamesa au Havre, où il y a 1200 emplois pérennes, une usine qui est au top de la modernité et qui va pouvoir produire pour des futurs projets français et hors de France également.
Autre argument que la question du prix. Gardez une question, je vous vois là, sauter sur le micro, c'est le tour de Soraya. Des profils comme Soraya, vous en avez besoin, des profils cyber chez Iberdrola ou c'est pas vos métiers?
Ça fait partie de nos métiers. Nous exploitons des installations extrêmement stratégiques et donc évidemment qui sont sensibles aux attaques en termes de cybersécurité. Donc de plus en plus, dans nos métiers, il y a le métier de la cybersécurité, déjà comme n'importe quelle entreprise, rien que les données de l'entreprise doivent être protégées, mais nos installations aussi
peuvent être attaquées.
Il y a de plus en plus des pays qui ne sont pas forcément des pays amis et qui sont importants dans le monde de l'énergie. Et donc là, les problématiques de cybersécurité sont de plus en plus grandes.
Soraya, votre question.
Oui. Alors, comment parvenez-vous aujourd'hui à assurer votre engagement en faveur de la souveraineté industrielle en France et en Europe, tout en maintenant des prix compétitifs face à des concurrents qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux ?
Votre question me plaît énormément parce qu'elle est vraiment au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, nous avons en Europe, dans certains secteurs des énergies renouvelables, une industrie qui est extrêmement performante, par exemple dans l'éolien en mer. Ce n'est pas le cas dans le photovoltaïque. On sait, la bataille a été perdue, on essaye de la regagner maintenant, mais elle a été perdue il y a 10 ans. En revanche, aujourd'hui, les conditions de la souveraineté industrielle de l'Europe ne sont pas encore remplies. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne se bat pas à armes égales. On se bat face à des pays, tels que les pays asiatiques, la Chine en particulier, ou les États-Unis, qui subventionnent leur industrie. Il y a des subventions à l'installation, mais il y a aussi des subventions à la production. Et je crois que l'Europe est le dernier continent qui essaye ou qui tient à respecter les règles de l'OMC. Donc là, il faut vraiment que l'on réfléchisse, puisque si on veut la souveraineté énergétique, il faut aussi la souveraineté industrielle. La souveraineté industrielle, c'est aussi de l'emploi. Et donc, il faut veiller à faire évoluer les règles du marché en Europe et peut-être être un peu moins, excusez-moi l'expression, bisounours et plus réaliste face à la concurrence que nous avons en face de nous.
Mais la question de Soraya, on en a déjà parlé ensemble plusieurs fois dans la matinale sur BFM Business, c'est est-ce que vous allez vous faire manger et donc du coup dans 10 ans, bah, finalement, tous les industriels du renouvelable seront chinois ou est-ce qu'on va y arriver justement à se protéger face à la concurrence étrangère ?
Je crois que ça serait une énorme erreur de perdre notre souveraineté ou de pas essayer de regagner dans certains secteurs comme le photovoltaïque notre souveraineté industrielle. On ne peut pas dépendre de marchés comme la Chine et la cause n'est pas du tout perdue. En revanche, c'est des évolutions réglementaires et c'est surtout des évolutions dans comment sont organisés les appels d'offres avec des obligations de contenu local, mais aussi avec un soutien à la production, avec des fonds publics. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont mises en place pour un soutien à l'installation d'usines. Une fois que les usines sont installées, il faut bien qu'elles puissent produire à des conditions qui permettent de rivaliser face à des pays qui, eux, sont subventionnés.
Vivian, c'est votre tour.
Sur le plan RH, nous, sur les campus, notamment en école d'ingénieurs, on voit beaucoup l'opérateur historique. Mais vous, en quoi vous vous démarquez sur vos métiers, sur l'aspect RH ?
Vous voyez qui sur vos campus ?
EDF, pour être très clair. Et qui sont très présents sur les campus, qui font beaucoup de promotions pour leur métier. Et donc, ma question pour vous, c'était vous, opérateur plutôt nouveau sur le marché, comment est-ce que vous vous démarquez sur les métiers ? Simplement, pourquoi aller chez vous plutôt que chez l'opérateur historique ? Nous, en tant que jeune ingénieur.
Oui, ils pensent que vous êtes nouveau.
Alors, comme je vous disais, nous sommes un pionnier, puisque c'est dans les années 2000, en fait, c'est à la suite, quand a été signé le protocole de Kyoto, donc là, je sais, même avant les années 2000, c'est là qu'Iberdrola, au travers de son chairman, a réalisé qu'il fallait s'engager sur le renouvelable. Donc déjà, la première chose que vous avez chez Iberdrola, c'est l'authenticité, puisque nous avons commencé quand tout le monde nous traitait en fait de fous, nous disait non, ça n'a pas d'avenir.
Mais vous faites pas de campagne sur les campus. Alors du coup, personne ne le sait. Non, mais c'est vrai.
Alors effectivement, il faut peut-être que l'on communique un peu plus. Alors nous sommes de plus en plus visibles en France. Dans le monde de l'énergie, comme nous sommes un des leaders mondiaux, nous sommes vraiment connus. C'est vrai qu'en France, il faut que nous communiquions peut-être un peu plus. Vous avez raison et que nous allions plus sur les campus.
Mais ça marche, le marketing sur les campus ?
Ah oui, énormément. Oui. Il y a ça et les alumni aussi. Parce que comme on a beaucoup d'alumni de l'école qui sont dans une ou autre entreprise, eh bien ça incite beaucoup les étudiants à aller dans ces entreprises aussi.
Donc, David, il nous reste 2 minutes.
Très rapidement, vous avez besoin de qui comme jeune aujourd'hui ? Quel type de talent vous cherchez ?
Alors Soraya déjà, apparemment, pour ce que j'ai compris, mais, et pour les autres, super.
Mais en majorité, je veux dire.
Sur la période 2024-2026, Iberdrola, dans le monde, va recruter 10 000 personnes. Donc, il y a énormément de profils qui sont nécessaires. Il y a évidemment beaucoup de profils techniques, de profils d'ingénieurs, mais pas seulement. Il y a besoin de juristes, il y a besoin de financiers, il y a besoin de profils commerciaux, il y a besoin de profils liés à l'environnement, etc. C'est 10 000 emplois, c'est énorme au niveau mondial. Je vous rappelle, on est dans une trentaine de pays. Et donc, c'est plusieurs dizaines qui seront nécessaires en France, entre autres. Mais Iberdrola, ce n'est pas seulement la France. Iberdrola, c'est l'opportunité pour avoir des carrières à l'étranger, pour avoir un vrai développement de carrière. C'est pour ça que je préfère communiquer sur ce chiffre des 10 000 embauches.
Soraya, il reste une minute si vous avez encore une question.
Il y a 20 ans, Iberdrola a anticipé la transition énergétique. Vous vous êtes présenté comme avant-gardiste. Aujourd'hui, en tant que leader et pionnier, vous estimez qu'il est indispensable d'investir dans l'éolien offshore et l'éolien flottant. Comment parvenez-vous aujourd'hui à convaincre les acteurs clés de cette nécessité ?
Vous savez, le gros problème que l'on a, c'est sortir du fossile. Pour sortir du fossile, en France, on dépend encore à 63%, à 70% en Europe. Il faut électrifier les usages, mais avec de l'électricité verte ou de l'électricité décarbonée. Donc, il y a la solution du nucléaire et la solution du renouvelable. Donc, déjà, si on n'est pas climato-sceptique, on est forcément pro-électricité renouvelable. C'est le premier moyen de convaincre. Et après, vous parliez de l'éolien en mer, entre autres. L'éolien en mer est un moyen de produire massivement de l'électricité renouvelable, puisque en mer, il y a plus de vent qu'à terre. Les vents sont plus constants. Vous avez mentionné le flottant aussi. Le flottant est une technologie d'avenir, mais elle est encore dans un mode expérimental, on va dire. Il faut développer massivement aujourd'hui l'éolien en mer posé.
Bon, eh bien, Emmanuel Rollin, vous allez rejoindre la régie. Je vais débriefer avec nos trois étudiants.
Recherche talent sur BFM Business.
Ah, tous les trois, vous m'avez étonné parce qu'on en a reçu quand même des patrons dans Recherche talent. Là, on est face à quelqu'un qui travaille dans les énergies renouvelables et vous me le challengez comme jamais, comme s'il y avait une attente particulière, qu'il ne fallait pas être déçu. Alors, on a reçu plein d'industriels, ils n'ont pas eu de questions aussi précises, David.
Oui, parce que, comment dire, on fait un débrief là, donc, oui. mais concrètement, oui, il y a eu de la création d'emplois à Saint-Brieuc. Oui, il y a eu aussi du coup la culture de la pêche qui en a beaucoup souffert. Il y a des gens qui ont perdu leurs emplois aussi. Donc c'est toujours ça. Oui, il faut respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et il faut que la Chine et les États-Unis arrêtent de subventionner. Mais si on parle d'appel d'offres et qu'on veut que l'Europe soit compétitive, bah, il faut qu'on fasse la même chose. Donc pour moi, c'est toujours ce jeu de chacun a aussi son rôle à jouer. Et comme a dit Monsieur Rollin, il ne faut pas être bisounours. Mais pas être bisounours, ça veut dire aussi protéger nos emplois, mais protéger la France.
C'est-à-dire que vous venez là avec l'idée de dire ne me vendez pas du rêve. Je sais qu'il y a des externalités négatives.
Exactement.
C'est ça.
Exactement. C'est très beau, l'éolien, le renouvelable. Mais il y a évidemment tout ce qui est circularité derrière. Il y a, on ne peut pas compter sur le progrès technique dans 25 ans, donc en 2050, pour se dire dans 25 ans, il y aura des solutions. C'est maintenant les solutions. C'est maintenant qu'il faut anticiper.
Alors, je serais très curieuse de voir la réaction après pour savoir s'ils vous embauchent ou si vous foutez les jetons. Clairement. Soraya.
Moi, le discours m'a totalement convaincue. Dans un premier temps, le changement climatique aujourd'hui, c'est le besoin urgent auquel l'humanité est confrontée. Et puis, on voit bien, d'après les échanges également, cette volonté d'Iberdrola de remplacer de manière progressive, mais aussi urgente, la consommation d'énergie primaire en énergie renouvelable. L'éolien ici apparaît comme une réelle source, comme un espoir en réalité, face à ces enjeux urgents.
Vivian.
Bah oui, moi j'ai beaucoup aimé l'identité d'être pionnier sur les énergies renouvelables, mais je pense qu'on a été un petit peu dur aussi parce que on sait que l'énergie c'est un secteur qui recrute beaucoup, notamment avec la construction des nouveaux réacteurs nucléaires. Donc peut-être aussi qu'on monte un peu nos exigences en tant que jeune entrant sur le marché du travail.
Ah oui, vous le challengez par rapport à EDF en disant là-bas aussi ils font des belles propositions.
Je pense qu'il y a un jeu d'offre et de demande qui joue inconsciemment, oui.
Bon, et alors si vous propose un poste après l'émission, parce que je le dis à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, ça arrive à peu près dans 90%, même 95% des cas. David, vous dites quoi ?
C'est fiche de poste, salaire. Non, je rigole. Mais c'est,
fiche de poste,
c'est mission, c'est quel est le plan, en fait, pour moi, sur mes 10, 15, 20 ans de carrière. Est-ce que c'est cohérent avec mes appétences, avec mes envies, tout simplement?
Vous avez de la famille à Saint-Brieuc?
Non.
Très bien. Bon, on va débriefer avec Emmanuel Rollin pour savoir justement s'il vous embauche à la fin.
Recherche talent sur BFM Business.
Emmanuel Rollin, vous étiez face à David, Soraya et Vivian. Bon, ils vous ont challengé. Alors, vous avez très bien répondu, hein. C'est pas le problème. Mais il y a une attente très forte. Ils veulent vous faire comprendre qu'ils ont bien compris votre business et que vous n'allez pas les entourlouper avec une histoire de sens, qu'ils ont regardé précisément ce que vous faites. J'ai trouvé ça assez étonnant.
Alors, je les ai trouvés extrêmement bien renseignés sur l'entreprise. Et le fait qu'ils soient exigeants, effectivement, ça me challenge, mais c'est plutôt rassurant. C'est la jeune génération, c'est le futur. Et pour moi, l'expérience, elle est vraiment passionnante parce que là, on est sur le terrain. Je suis face à des jeunes, je peux pas leur raconter des histoires. Il faut des faits, il faut démontrer, il faut. Donc, ça permet de voir si effectivement l'entreprise est cohérente avec son discours, si ce qu'elle fait a du sens. J'ai beaucoup apprécié, moi, le fait qu'il me secoue un petit peu.
Vous savez, qu'est-ce que vous faites de David? Vous l'avez en entretien, vous dites, il va me casser les pieds pendant les 10 prochaines années. Vous dites, justement, il va nous challenger peut-être, justement, quand pas faire des erreurs qu'on n'avait pas vues. Qu'est-ce que vous faites de ce type de profil?
Vous savez, une des premières qualités qu'on recherche, c'est la passion. Donc, j'ai vraiment l'impression que David, il est passionné. Et puis après, eh bien, en étant en entreprise, il va être confronté à la réalité. Donc je pense que c'est un très beau mélange, ça, hein, puisque cette passion, cette envie de changer les choses, et puis cet outil, entre guillemets, qui permet de se démultiplier. Et chaque employé dans une entreprise comme Iberdrola a la possibilité d'en faire beaucoup plus.
Mais vous allez avoir un esprit critique à partir de 9h-10. Hein.
Je relève le challenge, pas de problème.
Ça vous pose pas de problème?
Non.
Question salaire, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur proposer? Est-ce que vous allez être sur les mêmes montants que ce que proposait EDF? Est-ce que vous allez être en compétition avec Total, qui va avoir un autre discours, mais aussi va chercher à les appâter? Comment vous allez vous positionner?
Aujourd'hui, on est obligé d'être au niveau du marché. Hein. On est dans un secteur qui grandit énormément. Il y a beaucoup d'offres qui sont proposées, donc on est obligé d'être compétitif. Mais après, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'ensemble, l'ambiance de l'entreprise, le sens de l'entreprise. Je crois qu'Iberdrola est une entreprise qui propose beaucoup de sens, hein, qui permet... vous savez, on parle beaucoup d'éco-anxiété. Et le meilleur moyen de lutter contre l'éco-anxiété, c'est d'agir. Chez Iberdrola, vous agissez dans le bon sens. Je crois que ça aussi, ça a une valeur pour des jeunes qui veulent essayer d'apporter des solutions aux problèmes de notre temps.
Vous leur avez promis des carrières internationales. Ça, c'est... où est-ce qu'ils vont pouvoir aller travailler s'ils vont chez Iberdrola?
Ils peuvent aller au Royaume-Uni, ils peuvent aller aux États-Unis, ils peuvent aller au Brésil, au Mexique, ils peuvent aller dans différents pays européens, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne. Nous sommes dans plus de 30 pays. Nous sommes en Asie aussi, en Australie, au Japon.
Donc, c'est un passage obligé ou c'est un plus où il faut aller faire ses armes un peu à l'étranger?
Ce n'est pas obligé, mais c'est extrêmement enrichissant, tant pour les employés que pour l'entreprise.
Qu'est-ce que c'est de bosser pour une boîte espagnole? Qu'est-ce que ça change?
Alors, la question est intéressante. Une boîte espagnole, déjà, ils ne baissent jamais les bras. Et ça, on l'a vu sur Saint-Brieuc. C'est quand ils ont décidé quelque chose, ça se fait. Et donc, il y a énormément de solidarité. On pousse tout dans le même sens. On lâche pas et on atteint l'objectif. C'est une des grandes forces, en tout cas, de cette entreprise.
On n'aura jamais autant parlé de Saint-Brieuc qu'aujourd'hui. Alors comme moi j'ai de la famille à Saint-Brieuc, ça va leur faire plaisir. Merci beaucoup d'être venu ce matin et en régie aussi. Voilà, tout le monde est très content. Emmanuel Rollin, merci d'être venu dans Recherche Talent. Si vous voulez participer, vous nous envoyez un mail avec vous, @bfmbusiness.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée.
Recherche Talent sur BFM Business.